Mes chers collègues, je ne sais pas si on nous entend là. Ah, voilà. Bien, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Alors, Pierre présent, Balestra Claude. Balestra Johan est excusé, représenté par Anne-Sophie Chazelle. Beaubreuil Bernard. Baudet Hervé. Chabot Mireille est excusé, représenté par Didier Lequief. Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Coindo Lucien, excusé, représenté par Mes Soins, Compère Béatrice, excusé, représenté par Laure Murat, Coucou Nadège, Crossi Eliane, Dauvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbo Alex, excusé, représenté par Thierry Granet, Granet Thierry. Ladune Clément, Laurencier Noël, Lequief Didier, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabel, Pichon Joël excusé, représenté par Hervé Baudet, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence, Razo Afenozoa Esther, Roi Didier, Séba Julia, Simono Christelle, Tarno Nathalie, Tricard Stéphanie, Vacheux Christophe. Donc, dans l'ordre du tableau, secrétaire de séance ce soir, notre collègue Nadège Coucou. À l'ordre du jour de notre conseil, nous avions en tout premier la validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 1er avril 2021. Est-ce qu'il y avait des remarques? Pas de remarques, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Notre collègue Laurent Chazla concernant l'acceptation du legs de M. Desbordes Camille.
Par courrier du 15 avril 2021, l'étude notariale Courriveau, 6, 27 avenue Henri Barbus à Saint-Junien, a informé la commune du décès de M. Camille Desbordes le 26 novembre 2020. L'étude notariale a également informé la commune du fait que M. Camille Desbordes a souhaité instituer, au terme d'un testament authentique en date du 7 septembre 2017, la commune de Saint-Junien comme légataire à titre particulier de sa maison cadastrée section AL numéro 87 et située 7 impasse Massé à Saint-Junien. Considérant que le legs dont il s'agit n'est grévé d'aucune charge excessive pour la commune de Saint-Junien, il est proposé au conseil municipal d'accepter les legs particuliers consentis à la commune de Saint-Junien par M. Camille Desbordes. Il vous est demandé d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires à l'acceptation de ce legs.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Piel.
Juste une faute de frappe à corriger qui m'a écorché les yeux sur accepter le legs ER, pas E.
Oui. L'avant-dernière phrase. Ok, d'autres... Oui.
Oui, merci monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération est l'occasion pour rendre hommage à Camille Desbordes, qui a été un grand personnage dans la cité, qui a donné beaucoup de sa personne pour la collectivité, et son ultime acte de faire de la municipalité son légataire est encore la preuve de la qualité humaine qu'avait monsieur Desbordes. Donc je suis ravi personnellement de cette délibération et je salue sa mémoire ce soir. Merci monsieur le maire.
Merci, c'est vrai que c'est un engagement qu'il avait pris, l'acte était de 2017, mais l'engagement était bien antérieur à l'acte qui avait été signé chez Maître Courriveau. D'autres questions? Donc je soumets au vote des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Laure Murat concernant le service municipal d'action culturelle.
Dépôt de demande d'aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités territoriales. Dans le cadre du plan France Relance, initié par le gouvernement pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, le Centre National du Livre, CNL, alloue sous condition une subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités territoriales. Cette aide a pour objet de soutenir l'achat de livres imprimés pour accompagner la reprise d'activité des librairies indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. La subvention est ouverte en deux phases, l'une en 2021 et l'autre en 2022. La commune de Saint-Junien remplissant les critères d'éligibilité suivants. Être une bibliothèque de lecture publique territoriale, disposer d'un personnel permanent formé à la bibliothéconomie, proposer au public un accès direct aux collections et ne pas pratiquer la location d'ouvrages. Et attestant que les crédits d'acquisition de livres imprimés inscrits au budget 2020 du service municipal d'action culturelle pour son action lecture publique et médiathèque s'élèvent à 20 301,69 € dans le dernier exercice comptable clos de 2020, dont des crédits d'acquisition de livres imprimés auprès des librairies indépendantes inscrits au budget 2020 du service municipal d'action culturelle pour son action lecture publique et médiathèque s'élevant à 18 050,58 € dans le dernier exercice comptable clos de 2020, dans le budget 2021 du service municipal d'action culturelle, pour son action lecture publique et médiathèque, les crédits d'acquisition de livres imprimés, inscrits à hauteur de 20 500 €, sont maintenus par rapport à 2020. L'ensemble des usagers ont accès aux collections acquises. La commune de Saint-Junien sollicite le concours financier de l'État, via le CNL, pour une aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités territoriales à hauteur de 25%, calculée à partir du montant des crédits alloués par la commune de Saint-Junien à l'achat de livres imprimés 2021. Le conseil municipal, après délibération, sollicite le concours financier de l'État, via le CNL, pour une aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités territoriales à hauteur de 25%, calculée à partir du montant des crédits alloués par la commune de Saint-Junien à l'achat de livres imprimés 2021.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Nadège Coucou concernant l'adhésion de la ville à l'association AMAC, Nouvelle-Aquitaine.
Oui, bonsoir. Donc, dans le cadre des manifestations estivales en extérieur, organisées notamment par le service municipal d'action culturelle de la ville, cette dernière peut avoir besoin de louer ponctuellement du matériel de scène, éclairage spécifique. La délocalisation de la manifestation des rendez-vous en terrasse du fait de la crise sanitaire entraîne notamment ce type de besoin pour adapter les sites de remplacement à tout type de spectacle. L'association Loi 1901 APMAC Nouvelle-Aquitaine, plateforme professionnelle d'accompagnement technique, dispose d'un parc de matériel disponible à la location afin d'assurer bon déroulement de tout type de projet culturel ou d'animation porté par les collectivités territoriales. Ce parc de matériel est situé à Limoges et pratique des tarifs de location compétitifs. Pour pouvoir en bénéficier, la commune doit s'acquitter d'une adhésion annuelle à l'association au tarif de 120 € pour l'année civile en cours. Tarif catégorie A pour les collectivités et tranche 2 correspondant aux communes comptant de 5 000 à 15 000 habitants. Il est proposé à la ville d'adhérer à l'APMAC Nouvelle-Aquitaine.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Didier Roy, approbation des attributions de compensation année 2021.
Merci. Vu le Code général des impôts et notamment l'article 1609, noni 16C, vu la délibération du Conseil communautaire numéro 2021-095 du 8 avril 2021 relative aux attributions de compensation pour l'année 2021, vu la délibération du Conseil municipal numéro 2021-035, du 1er avril 2021, approuvant le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférée du 29 mars 2021, considérant que les attributions de compensation doivent être approuvées par les communes membres, il est demandé au conseil municipal, après délibération, d'approuver les attributions de compensation pour l'année 2021 telles que présentées dans le tableau annexé à la présente délibération, de dire que les crédits seront constaté sur le budget général de l'exercice en cours.
Merci. Donc c'est un tableau qui a été approuvé également à l'unanimité au niveau de la communauté de communes. La modification, c'est simplement le retrait des chemins de randonnée puisque la part d'attribution de compensation liée aux chemins de randonnée n'existe plus puisque les chemins de randonnée vont être de nouveau gérés par les collectivités. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Noël Laurencier concernant le classement de la rue Évariste Galois de voie communale en voie départementale.
Suite au déclassement de l'ancien tracé de la RN 141, entre la Barre et les Séguines, il restait à transférer un tronçon situé entre le giratoire des Séguines et celui de la ZA axiale. Le 9 novembre 2020, le département émet un avis favorable au nouveau classement de cette portion de voie et en parallèle un transfert de domanialité du chemin piétonnier qui relie la route du Dérou avenue au Radour-sur-Glane est proposé. Considérant que la rue Galois fait partie intégrante de l'itinéraire de substitution représenté par la RD 941, créée lors de la mise en deux fois de voie de la RN 141, et donc qu'elle a donc vocation à intégrer le réseau des voies départementales. Considérant que le chemin situé sur la parcelle relevant du domaine privé du département représente un intérêt pour la circulation piétonne des usagers et notamment des lycéens. Il vous est proposé, après avoir délibéré, d'approuver cette présente délibération, d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures visant au classement de la rue Évariste Galois en voie de départementale et au transfert de domanialité du chemin situé sur la parcelle AC-114.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Et finalement, on régularise un oubli qui datait d'un moment. Notre collègue Stéphanie Tricard concernant un contrat d'apprentissage.
Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du travail, vu le décret numéro 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à son expérimentation dans le secteur public, vu le décret numéro 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, vu l'avis donné par le comité technique, considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge supérieur d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Considérant que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité technique, il vous revient de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Il vous est donc demandé de recourir au contrat d'apprentissage et de conclure un contrat d'apprentissage au service bâtiment à compter du 1er août 2021 pour une durée de 2 ans, afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle, préparation et réalisation d'ouvrages électriques.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Je dois vous préciser qu'on essaye de plus en plus de prendre des contrats d'apprentissage dans la mesure où on le peut. Et là, c'est un peu un jeune qui était en BEP et qui bascule maintenant en CAP. Donc, c'est la poursuite de sa formation, de son cursus de formation. Notre collègue Eliane Crossi concernant la création d'un emploi non permanent pour mener à bien le projet de création de potager municipal.
Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la création d'un emploi non permanent pour mener à bien un projet identifié qui est chef de projet création d'un potager municipal. Vu la loi du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-2, considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet identifié, à savoir la création du potager municipal biologique. Le conseil municipal, donc, après délibération, décide la création à compter du 1er juillet 2021 d'un emploi non permanent de chef de projet potager municipal contractuel relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. Cet emploi non permanent est créé pour mener à bien un projet identifié, à savoir la création du potager municipal biologique. Les missions exactes de cet emploi seront les suivantes. Travail préparatoire de mise en place du potager municipal biologique avant la mise en activité. Ensemble des tâches nécessaires à la production maraîchère biologique en serre et en extérieur. Préparation des sols, semis et plantations, entretien des cultures, récolte. Préparation, conditionnement et stockage temporaire des récoltes en vue de la livraison au restaurant municipal. Maintenance de premier niveau sur les machines, engins et autres installations utilisées dans le cadre de ces missions. Coordination des tâches des autres intervenants sur les activités. Intervention ponctuelle pour d'autres activités sur les espaces végétalisés, taille, tonte, etc. Animation d'activités maraîchères éducatives. L'objectif est réputé atteint lorsque 80% des besoins du restaurant municipal sont remplis par la production du potager. Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois renouvelable allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus. Le contrat peut être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Le contrat prendra fin soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, soit si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. L'agent devra être diplômé d'un enseignement technique dans la spécialité concernée ou posséder une expérience équivalente confirmée, être titulaire du permis VL et des habilitations en lien avec les activités du poste. Il devra également posséder certaines compétences. Mise en œuvre des techniques d'exploitation pour la production maraîchère biologique. Connaître les normes, règles d'hygiène et de sécurité afférentes à l'activité. Connaissances maîtrisées pour la conduite et le contrôle des engins et machines de production maraîchère. Savoir rendre compte de l'avancement des travaux, autonomie et rigueur, sens du travail en équipe, sens du service public et discrétion professionnelle. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à un indice brut du grade de recrutement, soit adjoint technique. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure de recrutement prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 88, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics.
Je remercie le rapporteur. Donc c'est une délibération importante, puisque c'est finalement le début de la partie opérationnelle de la création, puisqu'il y a eu toute la partie, on va dire, réflexion administrative qui n'est pas complètement terminée, mais la partie opérationnelle rentrera dans sa phase concrète avec le recrutement de cet agent dont il a été convenu, puisque c'est ce qu'on avait discuté, ce qui a été vu en commission, je suppose, qu'il serait contractuel et si ça fonctionne bien, il pourra devenir titulaire après, sans aucune difficulté, mais la première précaution que l'on souhaitait, c'était d'être en capacité sur 24 mois, c'est-à-dire au moins une période complète de récolte, de voir quelle était la capacité de cette personne à justement proposer des récoltes qui puissent aller vers notre restaurant, vers notre unité centrale de production alimentaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Oui, juste une question d'ordre pratique. Comment est-ce que gérer le volume horaire en fait d'un tel poste, puisque enfin, c'est très irrégulier, mais c'est inhérent au maraîchage, avec des forts volumes horaires pendant peut-être 8 mois et puis beaucoup plus faibles
le reste. Non, mais le type de gestion, si vous voulez, ça peut être une gestion annualisée du temps de travail. Donc la gestion annualisée du temps de travail, on l'a déjà dans nos services, notamment en termes d'animation, par exemple. Pour un certain nombre de nos personnels, donc c'est une gestion annualisée qui sera faite sur la base d'une quotité de 1607 heures prévue par les textes. Après, il y aura forcément des périodes de pic et des périodes plus calmes en fonction des saisons, mais il y aura toujours un minimum d'activité de toute façon. Oui, avec le respect des amplitudes horaires, ça sera dans le. De toute façon, dès lors qu'on est sous la, je dirais, l'étiquette fonction publique territoriale, même si c'est un emploi contractuel, la réglementation forcément est respectée avec le quota maximum d'heures lorsqu'il y a une annualisation. Je crois que c'est 10 heures maximum ou 11 heures. Enfin bon, peut-être sur certaines périodes, je ne vous dis pas que ça arrivera en 11 heures, hein, mais à l'arrivée, on doit être à 1607 heures en respectant l'ensemble des textes. Donc vous aurez des périodes plus basse et des périodes plus fortes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Bernard Beaubreuil pour la commission de délégation de services publics.
Monsieur le maire, chers collègues, il est exposé que dans le cadre des procédures relatives aux concessions de services, l'article L411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit la création d'une commission dénommée Commission de délégation de services publics, CDSP, afin qu'elle analyse les dossiers de candidature, qu'elle dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et qu'elle émette un avis sur les candidats qui seront invités à participer, vous enlèverez le petit A à la fin de participer, aux négociations par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics. Ainsi, pour une commune de 3500 habitants et plus, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics, à savoir le maire ou son représentant, président de la CDSP, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élue en son sein, là vous rajouterez un petit N si vous ne l'avez pas, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Article D 1411-3 du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Toutefois, avant de procéder à la constitution de la commission par élection de ses membres, il convient, conformément à l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, de fixer les conditions de dépôt des listes. Il vous est donc proposé que les listes soient déposées ou adressées au conseil municipal à l'attention de M. le maire au plus tard le 15 juin 2021. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant.
Je remercie le rapporteur. Alors, je dois vous préciser que ça, c'est la partie réglementaire. L'ensemble des présidents de groupe, des responsables de groupe, pardon, ont été vus et il y aura une liste unique qui sera présentée, qui représentera l'ensemble des groupes siégeant au conseil municipal. Je vais y arriver. Est-ce qu'il y a... Alors, et on passera et on validera tout ça au prochain conseil municipal qui doit être le 27 juin, enfin plus loin, bon, fin juin. Bien, est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Notre collègue Esther Azoa-Fenozoa concernant le crématorium.
Délibération relative à la création et à la gestion d'un crématorium. Vu le code de la commande publique et notamment l'article L1121-3 et sa troisième partie, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-1 et suivants relatifs aux délégations du service public ainsi que ses articles L2223-40 à L2223-43 relatifs au crématorium, vu l'avis du comité technique en date du 5 mai 2021, vu l'avis de la commission consultative du service public locaux en date du 20 mai 2021, vu le rapport du de présent établi conformément aux dispositions de l'article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales figurant en annexe de la présente délibération. Expose préalable. Numéro 1. Consciente que l'évolution des pratiques dans le domaine funéraire va conduire à un renforcement du recours de la crémation dans les années à venir et enfin d'améliorer son offre du service funéraire, la ville de Saint-Junien envisage la construction d'un crématorium sur son territoire. Par ce biais, la ville souhaite réduire les déplacements contraignants nécessaires à ses habitants, en particulier les plus âgés, lorsque ces derniers se rendent au crématorium alentour. Le projet envisagé inclurait, outre le crématorium, la réalisation des parkings destinés aux usagers, au personnel de l'exploitant. L'équipement serait sur la commune de Saint-Junien, dans le département de la Haute-Vienne, à 30 km de Limoges. La parcelle se situe à l'est de la commune, à 3 km du centre-ville, au sein de la zone Boisse, et précisément à l'îlot numéro 4. Le bâtiment nécessitera une emprise foncière totale estimée à 1958 m², dont 648 m² de surface bâtie. Le coût d'opération du projet est estimé à environ à 2 084 000, incluant les études de construction du nouvel équipement. Cet investissement sera intégralement supporté par le concessionnaire dans le cadre du projet. Or, en vue de la réalisation de ce projet, la ville souhaiterait confier de manière globale à un tiers la conception et la construction du crématorium et de ses équipements, y compris la voie réseau et divers et le parking. Le financement de l'ensemble des études et des travaux nécessaires à la réalisation de ces ouvrages. L'entretien et la maintenance, en ce compris les gros entretiens et renouvellements de l'ensemble des ouvrages réalisés ainsi que des équipements du service. L'exploitation du service dans l'équipement et le siège. Dans la mesure où l'initiative de la création d'un équipement de type crématorium appartient à la ville, article 1L. L2223-40-CGCT et que le service public de crémation doit s'analyser comme un service public industriel et commercial, la ville peut, par la réalisation de ce projet, recourir à plusieurs types de montages contractuels. Toutefois, compte tenu des orientations stratégiques prises par la ville et des arguments décrits dans le rapport des présentations figurant en annexe de la présente délibération, le recours à un mode de gestion délégué de type délégation du service public sous forme de concession apparaît comme le montage contractuel le plus pertinent pour la réalisation de ce projet. Ce mode de gestion répond en effet le mieux aux attentes, besoins et contraintes de la ville en permettant une réalisation par le délégataire sous sa propre maîtrise d'ouvrage des études des travaux nécessaires à la construction du crématorium et de ses équipements. Une prise en charge par le délégataire de l'intégralité du financement de ses études et travaux. Une externalisation de l'exploitation du service qui permettra à la ville de s'appuyer sur l'expérience et la technicité d'opérateurs spécialisés dans le secteur funéraire et de transférer au délégataire entreprises professionnelles du secteur l'ensemble des risques propres à une telle activité, tels notamment que le risque commercial lié à l'évolution de l'activité ou encore l'ensemble des risques techniques liés au fonctionnement des équipements, entretien et maintenance. Deuxièmement, les principales caractéristiques du futur contrat détaillé dans le rapport joint en annexe sera dès lors les suivantes. Le contrat aurait pour objet de confier au délégataire le financement, la conception et la réalisation des travaux nécessaires à la construction de crématorium et de ses équipements, y compris les voies réseaux et divers et le parking. L'exploitation du crématorium dans le respect de la réglementation applicable de ce type d'activité et en vue de satisfaire pleinement les attentes des familles. Le délégataire contractera une obligation de résultat vers la ville, délai de construction, date d'ouverture, respect des exigences du service public dans le cadre de l'exploitation du service, dont la non-atteinte pourrait être sanctionnée. Financière, pénalité et sanction correcte, coercitive, réalisation pour faute. Le délégataire serait ainsi seul responsable, à ses risques et périls, de la bonne exécution des travaux et de la bonne gestion du service. À ce titre, il assumera seul, notamment s'agissant de la réalisation des ouvrages, la réalisation des études préalables, études architecturales et d'ingénierie nécessaires à la réalisation des ouvrages, l'obtention des autorisations administratives nécessaires, permis de construire, le ZRP, etc., et à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages, la réalisation de l'ensemble des travaux conformément aux règles de l'art, aux prescriptions réglementaires et à celles résultant des autorisations administratives obtenues, le financement de l'ensemble de ces études et travaux. S'agissant de l'exploitation du service, la gestion du personnel, la relation contractuelle et commerciale avec les usagers, accueil, formation et accompagnement des familles, la responsabilité des opérations des crémations, la réception des cercueils et leur conservation en attendant la crémation, l'organisation des cérémonies à la demande de familles ou de leurs mandataires, la crémation des pièces anatomiques d'origine humaine à la demande des établissements de santé, la crémation de cercueils et des restes mortels, la pulvérisation des cendres, le recueil des cendres, la remise des cendres aux familles et éventuellement le stockage temporaire des urnes, notamment pour le cas où les familles ne souhaitent pas récupérer immédiatement les cendres. La dispersion des cendres et les opérations nécessaires à l'enfouissement des cendres ou au scellement des urnes à la demande de famille ou de leur mandataire. Et enfin, l'entretien et la maintenance des ouvrages, du four et des équipements qui devront répondre en permanence à la réglementation applicable ainsi qu'aux besoins du service. Au regard de l'ampleur des investissements pour la création d'un tel équipement, et enfin de tenir compte de la durée d'amortissement de ces investissements, le contrat serait conclu sur la base d'une durée de 35 ans. Le délégataire tirera sa rémunération de l'exploitation du crématorium sous la forme de recettes tarifaires perçues sur les usagers du service. Il supporterait seul et intégralement l'aléa de l'exploitation et le risque commercial en découlant pendant la durée du contrat. En outre, en contrepartie, de la mise à disposition du terrain d'assiette, domaine public, le délégataire verserait chaque année à la ville une redevance minimum garantie, acquise dans tous les cas à la ville, ainsi qu'une redevance variable annuelle dont les modalités de calcul seront précisées dans le contrat. La ville conservera un pouvoir de contrôle sur le bon déroulement de l'exploitation du service, ainsi que sur la gestion du service par le biais d'outils qui seront précisés dans le contrat. Pour l'attribution du contrat de délégation, le délégataire serait retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence prévue par les dispositions combinées des articles L1411-1 et suivant le code général des collectivités territoriales et de la troisième partie du code de la commande publique.
Je remercie le rapporteur. Donc la question ce soir, c'est bien l'approbation du principe de création d'un crématorium et le principe de recours à une délégation de service public. Ensuite, la commission discutera des termes du contrat qui repasseront ensuite en conseil municipal. On n'est pour l'instant que sur les principes. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Juste par curiosité, l'îlot numéro 4. On n'a pas réussi à le localiser.
C'est sur la zone de Boisse, oui. C'est tout à fait au bout. C'est derrière Saïkapak.
Ah, derrière Saïkapak.
À peu près, à quelque chose près. Hein.
Pas loin de Saïkapak.
Comment ?
Pas très loin de Saïkapak, c'est ça ?
Oui, par là-bas, oui. D'accord. Je ne l'ai plus en tête comme ça, mais c'est l'îlot qui est dans le virage. Oui, c'est pas loin de Saïkapak, de mémoire, comme ça. C'est en bout de zone.
Ok. Et une autre question, est-ce que vous aviez pensé à une autre localisation ou est-ce qu'il y avait plusieurs choix dans la localisation pour construire ce crématorium ?
Mais la problématique, si vous voulez, c'est que la localisation ne doit pas être à proximité de maisons d'habitation, pour des raisons qu'on peut comprendre. Doit être assez éloigné également pour... alors assez éloigné des problématiques que cela pourrait poser à des riverains. Donc très souvent, effectivement, c'est une installation qui se fait dans des zones industrielles, alors avec un aménagement, hein, puisque l'idée n'est qu'il y ait un aménagement adapté, bien sûr, à cet environnement qui est particulier, et à proximité aussi des voies de circulation, style deux fois deux voies, puisque l'idée, c'est aussi de rayonner un peu sur la Charente également, et de permettre un accès facilitateur pour les personnes qui viennent de l'extérieur sans avoir toujours à traverser la ville également. Donc, on n'avait pas énormément de lieux où ça pouvait, qui pouvaient remplir toutes ces conditions-là.
D'accord. Et en ce qui concerne la redevance annuelle, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le montant de cette redevance ?
Non, ça sera calculé. C'est justement la commission. Avant qu'on élabore le contrat, la commission travaillera sur ce dossier-là. D'accord. Et on vous donnera des exemples un petit peu, puisque après la redevance annuelle, elle va aussi être fonction du chiffre d'affaires du crématorium et donc du nombre de crémations qui sont réalisées chaque année. Donc, on essaiera, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais on a quelques éléments qui permettent de dire que peut-être qu'à 300 crémations, 400 crémations, 500 crémations, voilà, vous aurez des idées un peu de redevances qui vont revenir vers la collectivité, mais qui est fonction aussi de l'investissement et de l'ampleur de l'investissement qui sera donné à faire aux concessionnaires. C'est-à-dire que là, vous avez vu que l'idée, c'est nous, on met le terrain à disposition et le concessionnaire réalise la totalité. Donc forcément, du moment qu'il réalise la totalité, qu'il a ses propres personnels, la redevance est un peu moindre que si on réalisait une partie des murs, par exemple. Je vous dis un peu n'importe quoi, mais si on assurait la gestion après, parce que le risque voilà, n'est pas le même. Donc là, on est en train de... Enfin, le bureau qui nous fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage vous apportera un certain nombre... Enfin, apportera à la commission, je ne sais pas qui est-ce qui... dans cette commission, mais apportera à la commission des éléments qui permettront de réfléchir avant qu'on passe en conseil municipal les termes du contrat.
Très bien, merci.
Bien, est-ce qu'il est donc c'est dans la commission d'Esther, de toute façon, ça se gère ça.
Je voulais juste une précision. Je pense que c'est un atout pour notre ville parce que vu qu'à l'Andouche, c'est souvent en panne, enfin la deuxième, et les familles sont souvent en attente et ça coûte cher. Moi, je sais qu'il y a des familles qui demandent qu'on garde la morgue, mais sauf qu'on ne peut pas garder éternellement. Et que les familles, souvent, c'est 10 jours. Ils ont 10 jours maximum. Et que c'est un coût assez élevé, qui se rajoute à détresse morale et les tristesses des familles qui se rajoutent financièrement derrière, qui pourraient... c'est souvent l'Andouche qui est en panne, donc... C'est peut-être aussi, je dirais, c'est pas la mort qui attire, mais c'est, je pense que ça fait aussi notre renommée dans notre ville d'avoir cette installation.
Alors, je dois préciser, mais je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà dit, que on a rencontré l'ensemble des opérateurs pompes funèbres du secteur pour leur préciser qu'il y avait cette création-là, qu'il y aurait une délégation de services publics qui serait lancée, pour commencer à leur dire que s'ils étaient intéressés, après à eux de réfléchir s'ils veulent se mettre en groupement, en société ou je ne sais quoi pour aller réaliser ce projet. Bon, je ne suis pas certain qu'ils soient forcément intéressés, en sachant qu'en France, il y a 3 ou 4 opérateurs au niveau de la crémation, et que la politique aujourd'hui, c'est d'aller plutôt vers des petits... petites structures plutôt que d'aller vers des structures avec plusieurs fours parce que on essaye de garder un peu plus de convivialité et de faire moins usine que ce qui peut exister à certains endroits. Voilà. Donc après on verra à l'appel d'offres ce qui reviendra, mais avant la commission aura travaillé sur tout ce que vous nous avez demandé. Bien, donc je ne crois pas l'avoir fait voter. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Bernadette Desroches, concernant la dénomination des rues du lotissement Les Coteaux.
Un permis d'aménager a été délivré le 27 août 2019 au lieu-dit le Terme Rouge. Il est nécessaire pour les différentes administrations de dénommer la voie du lotissement et de porter à la numérotation. Le porteur de projet nous a proposé la dénomination suivante, impasse des Coteaux. Cette voie desservira 8 lots suivant le plan joint.
Voilà, donc on suit la proposition du lotisseur, du porteur de projet. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Hervé Baudet pour l'effacement de dette.
Considérant que M. le trésorier de Saint-Junien a informé M. le maire de Saint-Junien qu'il n'avait pas pu procéder au recouvrement de certains titres de recettes suite à des liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d'actifs ou à des décisions d'effacement de dette dans le cadre d'une procédure de surendettement, l'extinction de créances représente un montant total de 6 261,16 €. Qui est détaillé comme ça, 1 263,72 € pour le budget de la commune, 2 876,80 € pour le budget de l'eau et 2 120,64 € concernant l'assainissement. Et vous avez un tableau qui vous est joint, qui est des sommes concernant ces budgets.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Claude Balestra. Concernant la création d'un groupement de commandes.
Alors, vu les besoins ponctuels des services techniques pour l'entretien et la désinfection des différents organes de réseau, il y a des équipements ou installations parmi lesquels on peut citer les bacs à graisse, les bacs débourbeurs, des huileurs, les séparateurs d'hydrocarbures. Vu les interventions occasionnelles sur les réseaux des eaux usées et eaux vannes situées dans le domaine privé du patrimoine de la commune d'une part et les prestations liées au pompage et au nettoyage des cuves de stockage d'hydrocarbures d'autre part, qui nécessitent la mise à disposition d'un hydrocureur et du personnel qualifié, considérant les besoins identiques exprimés par les services de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin, en complément des interventions récurrentes à effectuer pour l'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement, considérant l'opportunité de mutualiser les prestations constituant un groupement de commandes, considérant l'obligation d'établir une convention constitutive du groupement qui déterminera les besoins propres à la collectivité et à l'établissement public avec des seuils de commandes annuels identifiés par nature de prestation, considérant la durée de l'accord cadre à souscrire par le groupement qui sera conclu pour une période initiale de 12 mois et pourra être renouvelé 3 fois par période annuelle dans les conditions déterminées au cahier des charges. Il vous est donc proposé d'approuver la création d'un groupement de commandes et de désigner le président de la communauté de communes en qualité de coordonnateur.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adoptés à l'unanimité ? La délibération suivante concerne également la création d'un groupement de commandes, mais ce coup-ci pour les services de télécommunications fixes et accès à Internet. Donc je ne vais pas vous reprendre les différents articles et les besoins et l'opportunité de mutualiser les achats, puisque c'est la même chose que ce qui a été dit tout à l'heure. Simplement, on est sur une durée d'accord cadre de 12 mois, mais reconductible 2 fois, ce coup-ci, au lieu de 3 fois tout à l'heure. Et avec une évaluation des besoins annuels pour la commune fixée à 35 000 € hors taxe en seuil maximum de commande. Donc voilà, il vous est proposé donc d'approuver cette création de groupement de commande avec la communauté de communes Porte-Océane du Limousin, qui a pour objet la passation de l'accord cadre de prestation de services de télécommunications fixes et d'accès Internet, et de m'autoriser à signer la convention en sachant que c'est la communauté de communes qui sera coordonnatrice pour agir au nom du groupement. Et donc de m'autoriser en même temps à délivrer les bons de commande à hauteur des besoins des services qui sont définis à la convention, en inscrivant bien sûr les crédits correspondants au budget principal de la commune. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adoptés à l'unanimité. Notre collègue Aurabelle Pesquet concernant le PEDT 2021-2024.
La municipalité a fait le choix de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013. Elle a signé un projet éducatif de territoire, PEDT, en juin 2015 pour la période 2015-2018, puis un autre sur la période 2018-2021. Le projet éducatif de territoire constitue un outil de collaboration locale qui peut rassembler à l'initiative de la collectivité territoriale l'ensemble des acteurs locaux intervenant dans le domaine de l'éducation, enseignants, parents d'élèves, associations, institutions. Le comité de pilotage du PEDT, réuni le 10 mars puis le 10 mai 2021, a examiné l'évaluation du dispositif pour la période 2018-2021. Cette évaluation a reposé sur près de 900 réponses réparties entre familles, enfants, enseignants, agents municipaux des écoles. Elle a été effectuée dans un contexte fortement marqué par la crise sanitaire et les conséquences de la mise en place des protocoles sanitaires sur les équipes municipales, les enfants, les enseignants. L'évaluation du PEDT a soulevé des éléments forts et des améliorations souhaitables dans les thématiques suivantes. Les temps du matin, du soir, des nappes, la restauration et les locaux scolaires, les règles de vie à l'école et de climat scolaire, l'information auprès des familles, des temps d'échange sur le PEDT à mi-parcours. Le comité de pilotage a placé l'intérêt de l'enfant au cœur de la démarche. Il a proposé les trois objectifs éducatifs spécifiques suivant la période du prochain PEDT, soit 2021-2024. Chaque objectif sera décliné par un programme d'action mis en œuvre sur les temps périscolaires et sur les nouvelles activités périscolaires. Ainsi, tous les projets pédagogiques de la collectivité seront structurés par ces trois priorités. L'objectif numéro 1 vise à favoriser la continuité éducative dans le respect des rythmes de l'enfant. Il s'agira de mettre en place un socle commun de règles de vie au sein de l'école, quel que soit le temps scolaire ou périscolaire de l'enfant, d'organiser les temps de l'école de manière cohérente et, ce faisant, de renforcer la structuration de l'enfant. À titre d'exemple d'action, les règles de vie feront aussi l'objet d'un renforcement de la communication entre les acteurs du périscolaire et du scolaire. Elles seront travaillées avec les enfants et les adultes, puis affichées de façon à pouvoir être comprises par tous les enfants. Les activités continueront à être ajustées en fonction du rythme de l'enfant à partir du socle de compétences des animateurs. L'objectif éducatif numéro 2 vise à outiller les enfants dans leur développement. Il s'agira de mettre en place des ateliers autour du vivre ensemble, de proposer un accompagnement au numérique, de développer l'éducation alimentaire et d'amener les enfants à mieux se connaître. À titre d'exemple d'action, les ateliers « Toi, moi, nous » seront démultipliés ainsi que les groupes de parole. Des sensibilisations ateliers jeux sur le numérique, le bien se nourrir, aliments, menus, environnement, le développement durable seront conçus et les ateliers de relaxation seront développés. La sensibilisation des agents au handicap sera renforcée. L'objectif numéro 3 vise à valoriser la parentalité. Il s'agira de mettre en place des temps favorisant la coéducation afin de mieux reconnaître le rôle des familles, dont les parents d'élèves élus, dans les conseils d'école comme partenaires éducatifs. À titre d'exemple d'action, des permanences ponctuelles sur des temps de présence de famille lors des temps de sortie d'école présenteront les dispositifs municipaux d'aide à la parentalité de la naissance à l'adolescence. Les parents d'élèves élus seront conviés à prendre connaissance sur place et avec le concours des professionnels du fonctionnement des structures périscolaires et de restauration. Le PEDT 2021-2024 sera soumis à la décision de l'inspection académique sans modification de l'organisation actuelle du temps scolaire. Il comprend une demande de dérogation au titre de l'organisation des accueils de loisirs, ALSH, décret du 2 août 2013. Cette demande est identique à la dérogation accordée dans les deux précédents PEDT. Taux d'encadrement, un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans au lieu de 1 pour 10 et un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans au lieu de 1 pour 14. Dans l'effectif d'encadrement sont comprises les personnes qui participent ponctuellement avec les animateurs pendant le temps de leur participation effective à l'accueil. Une convention de partenariat avec l'inspection académique, la DDCSPP et la CAF portant sur le PEDT de la ville de Saint-Junien sera ensuite élaborée et soumise au vote lors d'un prochain conseil municipal. Cette convention s'appliquera sur une durée de 3 ans. Il vous est demandé, après délibération, d'approuver les trois objectifs du PEDT ci-dessous et la demande de dérogation au titre des accueils de loisirs ALSH.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Avant de passer au vote, je voudrais quand même souligner le travail important qui a été mené à la fois par le comité de pilotage, par les élus, par les services, auprès des familles, des enfants. Je crois que c'est résumé en une délibération, mais c'est des heures et des heures de travail pour arriver à ce résultat. Et je crois que c'est quelque chose de particulièrement important parce que ça conditionne aussi l'activité que nous allons avoir dans nos services scolaires et périscolaires auprès des enfants sur les trois années à venir. Donc je crois qu'il faut vraiment le mettre en avant. Ça a été un travail phénoménal qui, en plus, a eu l'avantage d'impliquer aussi à la fois les familles, les professionnels, les enseignants, les élus, bien sûr, et l'ensemble de nos services, toutes activités confondues. Donc, je voulais profiter de cet instant pour les remercier. Je vous propose de le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Notre collègue Thierry Granet, concernant une exonération de loyer.
Oui, merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, conformément au décret numéro 202-1310 du 29 octobre 2020, dans ses articles 37 à 41, monsieur Burke, gérant de la boutique Mode Passion, au 12-14 place Guy Moquet à Saint-Junien, a été dans l'obligation de fermer sa boutique. Son commerce de vêtements mixtes a été qualifié comme non essentiel. Or, monsieur Burke est locataire de la commune de Saint-Junien. Il a exprimé par courrier du 30 décembre 2020 le souhait d'une réduction de loyer par la commune pour la période d'interdiction d'ouverture du 30 octobre au 27 novembre 2020. Il y invoque des difficultés substantielles de trésorerie et de nature à mettre en péril son commerce. La Direction générale des collectivités locales a mis à jour, le 24 novembre, la fiche d'aide économique aux entreprises en soutien au commerce fragilisé par l'épidémie de Covid-19. Il y est indiqué que ces aides peuvent prendre la forme de rabais sur le prix de location de bâtiments lorsque la collectivité est propriétaire du local. Il ne peut s'agir d'une exonération totale. En effet, le droit des aides économiques est dominé par le principe d'interdiction des libéralités qui découle du principe constitutionnel d'égalité. Cela fait obstacle à ce que la collectivité renonce entièrement au loyer qu'elle doit percevoir. Par conséquent, le rabais accordé par la commune pourrait se décliner sous la forme d'une remise hors charge au prorata temporis de la fermeture du commerce 27-30e dans le cas du demandeur. Cette procédure doit être formalisée par une convention entre la collectivité et le gérant du commerce. Sur ces bases, il sera accordé un rabais de loyer à M. Philippe Burke en qualité de gestion de Mode Passion 6, 12 et 14 place Guy Moquet à Saint-Junien pour les montants respectifs de 460,73 € et de 350,48 €. À ce titre, M. le maire de Saint-Junien sera autorisé à signer une convention avec M. Philippe Burke en qualité de gérant du magasin Mode Passion.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Didier Lequiev, concernant la mise en place du RIFSEP.
Sur la mise en place indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel. Conformément au principe de parité tel que prévu par l'article 88 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, il convient d'instaurer au sein de la commune de Saint-Junien un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, composé de deux parts cumulables. D'une part, une part fixe, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'IFSE, liée aux fonctions et à l'expérience. D'autre part, une part variable, le complément indemnitaire annuel, le CIA, lié à l'engagement professionnel et de la manière de servir. Et le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Le principe, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du régime indemnitaire. Cette indemnité repose d'une part sur une formalisation des critères professionnels et d'autre part sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d'emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants. Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le complément indemnitaire annuel CIA est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Ils sont appréciés au regard des critères suivants. L'investissement, la capacité à travailler en équipe, la connaissance de son domaine d'intervention, sa capacité à s'adapter aux exigences du poste, l'implication dans les projets du service, la réalisation d'objectifs et plus généralement le sens du service public. Ces critères seront appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N et les bénéficiaires de l'IFSE et le CIA sont applicables aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel et aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. La délibération propose des montants maxima, groupe de fonctions dont vous avez le détail. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2021 et le montant individuel de l'IFSE et du CIA seront décidés par l'autorité territoriale et feront l'objet d'un arrêté.
Je remercie le rapporteur. Alors, je précise qu'on repasse cette délibération puisque il y avait une délibération pour la mise en place du RIFSET qui était passée il y a longtemps maintenant, mais nous n'avions pas fait mention du CIA, c'est-à-dire l'indemnisation pour la manière de servir. Donc, comme on est obligé de le modifier, on nous demande d'inscrire le CIA dans le RIFSET. Il est bien évident que l'engagement qu'on a pris avec les organisations syndicales, c'est de ne pas l'appliquer, enfin de ne pas mettre de somme en face, parce que moi je ne sais pas comment dans une même équipe on va aller différencier la manière de servir à un moment donné, en sachant que nous avons aussi d'autres possibilités à un moment donné si on voit qu'il y a une difficulté. Donc c'est l'engagement qui a été pris, c'est d'ailleurs ce qui se fait dans un grand nombre de collectivités. Tant que nous n'avons pas d'obligation de par l'État d'inscrire une somme en face du CIA, somme qui de toute façon viendra en déduction puisque c'est des enveloppes fermées, viendra en déduction de la somme qui est sur l'IFSE, nous ne le ferons pas. Néanmoins, nous le créons puisqu'il y a une obligation de par la loi de l'avoir, de le créer, quoi, de le mentionner. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Donc adopté à l'unanimité. Notre collègue Bruno Malagnou concernant la validation des avenants pour le sport.
Vu la délibération du conseil municipal du 3 février 2014 portant sur la contractualisation du versement des subventions aux associations sportives à compter du 1er janvier 2014, vu la délibération du conseil municipal du 1er avril 2021 portant sur le vote du budget prévisionnel 2021, considérant les conventions pluriannuel d'objectifs signés le 29 juin 2020 entre la commune de Saint-Junien et les associations sportives ASCJ Athlétis, ASCJ Football, le ROC ASCJ et l'ASCJ Rugby. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la validation des avenants numéro 2 aux conventions pluriannuelles d'objectifs entre la commune de Saint-Junien et les associations sportives citées ci-dessus. Ces avenants définissent les montants de subventions annuelles votées au conseil municipal du 1er avril 2021 pour chacune des associations.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Le Quier.
Juste pour dire que je ne prendrai pas part au vote.
Oui. Monsieur Dauvergne.
Monsieur le maire, mes chers collègues, je veux revenir ce soir donc sur le courrier, monsieur le maire, que vous avez écrit en date du 8 avril 2021 à destination des associations, ce qui était relatif à l'octroi des subventions 2021. J'ai été scandalisé, et le mot est faible, par vos propos tenus dans ce courrier. Premièrement, je vous rappelle, et ce n'est pas faute de vous l'avoir rappelé au cours de cette première année de mandat, qu'Énergie citoyenne ne doit pas être assimilée à un groupe d'opposition, mais à un groupe minoritaire. J'espère que ce soir, ce sera la dernière fois que nous aurons à nous justifier là-dessus. Deuxièmement, je veux dénoncer le caractère mensonger de vos propos, monsieur le maire. Oui, le groupe Énergie citoyenne a voté contre les budgets, sauf le budget photovoltaïque. Non, le groupe Énergie citoyenne ne s'est pas prononcé contre la reconduction des subventions. Je vous demande, monsieur le maire, et vous renvoie même à vos propres contradictions. Oui, je vous demande pourquoi l'année dernière, alors que nous avons voté contre également donc les mêmes budgets, ça n'a pas été relevé, même contesté. Et pourquoi cette année, c'est un sujet dont vous vous emparez, peut-être pour en faire un but politique, je suppose. Je ne suis pas dupe, monsieur le maire. Votre volonté de dénigrer Énergie citoyenne aux yeux des associations est une manœuvre politique. Dans le contexte, je la comprends. Je tiens à dire à toutes les associations qu'Énergie citoyenne est à leur côté. Et je profite de cette tribune pour leur adresser au nom de notre groupe un message de soutien, de confiance et de respect, surtout dans la période que nous traversons. C'est nous faire doublement un procès, un mauvais procès. Un de nos premiers engagements de campagne, c'était le maintien global des subventions pour les associations. Et je peux vous dire qu'aussi tous les membres d'Énergie citoyenne sont investis dans des associations. Je dois être sans doute trop naïf, voire peut-être novice. Je pense qu'il faut être peut-être dans la politique un peu trop longtemps pour s'adonner à de telles pratiques irrespectueuses et mensongères. Pour conclure, monsieur le maire, et vous donner l'occasion d'éviter de tomber dans cet écueil, je vous propose, et d'ailleurs nous en avons discuté lors d'un conseil, mais même en commission, d'appliquer les dispositions de l'article 2311-7 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Je vous remercie.
Je vous remercie de vos propos. Alors, je vous demanderai de retirer le titre mensonger, d'abord, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas voté le budget. Donc, si vous n'avez pas voté le budget, vous n'avez pas voté les subventions aux associations. Je suis désolé. Donc, ce n'est pas mensonger que de dire que vous n'avez pas voté le budget. Donc, je trouve que le terme mensonger est tout à fait déplacé, d'une part. D'autre part, il n'a rien de politique. Il est un simple constat de ce qui s'est passé dans une assemblée. Voilà, vous qui voulez toujours faire preuve de transparence, je fais preuve de transparence. J'ai simplement dit la réalité des choses telle que tout citoyen peut aller la regarder lorsqu'il regarde le compte-rendu du conseil municipal. Alors, je suis désolé que ça ait pu vous blesser. Je vous précise tout de suite qu'il n'y a aucune volonté politique, c'est un simple constat qu'il y a eu sur ce budget. Ensuite, l'autre point que je voudrais vous dire, c'est que groupe d'opposition, je ne sais pas comment il faut vous appeler, moi pour moi, et dans toutes les majorités, quelqu'un qui ne vote pas un budget est quelqu'un qui se trouve dans un groupe d'opposition. Tout le monde vous le dira dans toutes les instances, quelles qu'elles soient. Donc après, que ça vous blesse qu'on vous appelle groupe d'opposition, je veux bien qu'on vous appelle groupe minoritaire, ce n'est pas la question, mais quand on ne vote pas le budget, on est quand même en opposition aux projets qui sont proposés. Moi, je ne sais pas le lire autrement. D'ailleurs, ce n'est pas que ma lecture, c'est la lecture de tous mes collègues qui sont autour de cette table, là, qui l'ont fait de la même manière. Et je dois vous préciser d'ailleurs que cette lettre a été visée en municipalité avant d'être envoyée au mouvement associatif. Donc ça ne préjuge absolument pas de votre engagement auprès des associations. Ça rend compte simplement du vote qu'il y a eu à un conseil municipal, comme ça pourra se faire à d'autres prises et comme vous l'avez déjà fait, vous, sur votre site, à d'autres moments, en expliquant votre vote. Voilà. Par contre, le terme mensonger, ça, il faudra me prouver que ce que j'ai dit est mensonger. Jusqu'à preuve du contraire, expliquez-moi si vous avez voté les subventions.
Vous savez très bien que je vous ai donné la solution, monsieur le maire.
Monsieur Dauvergne, est-ce que vous avez voté? Parce que je ne sais pas qui c'est qui ce soir fait de la politique plus que l'autre. Mmh. Moi, je pars d'un constat qui est très simple. Il y a un vote. Je rends compte du vote. Voilà.
Vous faites votre interprétation. Moi, je fais la mienne et je pense que les citoyens...
Ah, mais ce n'est pas une interprétation, c'est un vote.
Mais si, c'est une interprétation. Donc, on avait la possibilité de faire une double délibération. Vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est presque tendre un piège à nous dire qu'on n'est pas... Donc, moi, je maintiens ma position. C'est un propos mensonger. Donc, et vous l'avez exploité. Pourquoi vous ne l'avez pas exploité l'année dernière? Vous l'exploitez cette année. Donc, je veux dire, c'est un caractère politique que vous donnez au sens de ce courrier.
Mais c'est parce que vous estimez que votre vote est un vote politique, alors.
Mais vous savez très bien que le vote du budget est un vote politique. On vous a expliqué les raisons pour lesquelles nous ne l'avions pas voté.
D'accord. Donc vous êtes bien opposé au budget que la municipalité a proposé.
On s'est opposé sur certaines positions qui ont été proposées dans ce budget. On vous les a argumentées, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais jusque-là, les subventions, on aurait pu les distinguer sur notre délibération. Ce à quoi on avait discuté en commission et en conseil municipal, ce qui n'a pas été fait.
Enfin, pour l'instant, moi, j'ai un vote négatif. Bien. je vous propose donc de passer. On l'a pas voté, ça, je pense. Donc, vous avez l'occasion de faire un vote positif ce coup-ci. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Voilà. Donc, vous, on enverra le courrier pour dire que ce coup-ci, qu'il y a eu un vote unanime du conseil municipal. Donc ça, ce sera très transparent.
Et ça sera tout à votre honneur.
Comment ça... Ah, mais c'est pas à mon honneur, c'est juste rendre compte, monsieur Douvien, de ce qui s'est passé en conseil municipal. Moi, je cherche pas ni d'honneur, ni rien du tout. Je rends compte de ce qui s'est passé, c'est tout. Par contre, le terme mensonger, je vais quand même vérifier l'utilisation de ce terme-là, parce que me dire que c'est des propos mensongers après un vote du conseil municipal, je vous conseille de faire très attention quand même au terme des propos utilisés. Je vous propose de poursuivre avec notre collègue Julia Seba le tableau des emplois au 1er juin 2021.
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre la modification d'un poste par rapport au budget. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 1er avril 2021, considérant les besoins en recrutement liés à la création de la police municipale, considérant le départ à la retraite du responsable du service des sports et manifestations et afin de prévoir son remplacement, le maire propose au conseil municipal de créer un poste d'ETAPS principal de deuxième classe à temps complet. Alors, ETAPS, c'est éducateur territorial des activités physiques et sportives, et un poste de gardien brigadier à temps complet, et de modifier le tableau des emplois ainsi qu'il suit à compter du 1er juin 2021.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Philippe Gandois concernant le recueil des tarifs 2021.
Il s'agit de la modification des tarifs de location des chalets au camping de la Glane. Dans un souci de simplification de gestion et de meilleure lisibilité des tarifs de location des chalets au camping de la Glane, ces derniers sont révisés. Désormais, une même réduction de 10% est accordée sur le tarif à compter de la deuxième semaine de location. Ainsi, le recueil des tarifs 2021 au chapitre tourisme est ainsi rédigé. Ouverture du 2 janvier au 14 novembre 2021. Basse saison du 2 janvier au 25 juin et du 29 août au 14 novembre 2021. Haute saison du 26 juin au 28 août 2021. Je vous laisse prendre connaissance des différents tarifs des chalets et des services. Les réductions consenties, donc remises de 10% à partir de la deuxième semaine de séjour consécutive. Les arts, cautions, etc., ça n'a pas été modifié, ni les durées de location par rapport à la précédente délibération.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Notre collègue Christelle Simoneau concernant le lotissement communal du Boiseau-Bœuf.
Par délibération du 12 septembre 2011, le conseil municipal a adopté à l'unanimité l'aménagement du lotissement communal Le Bois au Bœuf, situé sur les parcelles communales cadastrées, section EV numéro 172 et numéro 173, d'une surface de 17 144 m², avec 12 lots à construire. Le prix des lots a été fixé à 20 euros TTC le mètre carré. Il est rappelé qu'un arbre sera offert par la commune à chaque acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de se rapprocher du service des espaces verts. Suite à la demande de M. Raobadia Conto, il est proposé de céder à ce dernier la parcelle cadastrée section EV numéro 214 d'une superficie de 1 294 m² au prix de 20 euros TTC le mètre carré. Les frais d'acte notariés sont à la charge de l'acquéreur. Les frais de négociation de l'agence immobilière sont à la charge de l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal de désigner l'étude de maître Galinier-Giry pour la rédaction des actes notariés dont les frais sont à la charge de l'acquéreur. Cette délibération annule et remplace la délibération 2017-185 en date du 14 décembre 2017.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à la majorité, à l'unanimité, pardon. Notre collègue Clément Ladune concernant une motion de soutien aux agents de la fonction publique territoriale.
Merci. Tout d'abord, je tiens en propos liminaire, que j'espère que vous me pardonnerez, à saluer l'action de la municipalité pour garantir un haut niveau de service public à la population, de bonnes conditions de travail aux agents. Et voilà. Alors, motion contre la loi de transformation de la fonction publique. Nous, élus de Saint-Junien, affirmons que les fonctionnaires territoriaux sont, à l'instar de l'ensemble des travailleurs du secteur public comme du secteur privé, des acteurs essentiels de la vie économique et sociale de la nation. Nous affirmons que, dans la crise sanitaire, sociale et économique à laquelle nous faisons tous face, les agents de la fonction publique territoriale ont été et sont toujours, quelle que soit leur mission, des acteurs qui permettent à notre société de surmonter les difficultés et rendre la vie meilleure. Chaque citoyen sait leur courage. Toutes et tous leur ont rendu hommage par leurs applaudissements et par d'autres manifestations de solidarité. Pour tous les travailleurs de France, nous aurions donc espéré que le gouvernement actuel tire les conclusions des erreurs du passé et abandonne les politiques d'austérité visant à dégrader les conditions de vie et de travail du plus grand nombre, en faisant, par exemple, une pression à la baisse sur les salaires et les conquis sociaux. Nous aurions pu, dans le même mouvement, croire que les attaques contre le service public et ses agents cesseraient, quoi qu'il en coûte. Pourtant, la loi dite de transformation de la fonction publique, mise en place par le pouvoir en 2019, n'a pas été modifiée. Si elle renforce l'obligation de porter les temps de travail des fonctionnaires territoriaux à 1607 heures par an, au nom d'une vision rétrograde de la modernisation, elle ne prévoit rien pour améliorer leur situation. Pour améliorer leur situation et le service rendu aux usagers, ni hausse de salaire permettant de rattraper le gel du point d'indice subi depuis plus de 10 ans, ni dotation supplémentaire de l'État aux collectivités pour permettre un meilleur service public, ni prise en compte des situations locales ou professionnelles spécifiques, astreinte de nuit ou du week-end par exemple. Pour nous, cette décision méconnaît l'engagement des agents publics territoriaux et l'importance de renforcer les services publics de proximité qui sont des biens communs de la nation. Elle s'inscrit aussi dans la poursuite des attaques contre les droits de tous les travailleurs que la période actuelle a vu se multiplier. De plus, cette décision marque un nouveau recul de l'autonomie des collectivités territoriales et de leurs citoyens. Une telle décision risque enfin de se traduire dans de nombreuses collectivités par une détérioration des conditions de travail des agents et par des menaces graves pesant sur l'emploi. Pour ces motifs, nous exigeons le retrait de cette loi et la garantie qu'aucune régression sociale ne sera imposée à quelque agent public que ce soit. Nous souhaitons surtout l'ouverture d'un débat démocratique incluant les élus locaux, les organisations syndicales, les associations et les usagers, permettant notamment une véritable reconnaissance de l'importance de l'action des fonctionnaires territoriaux, l'amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération. Nous rappelons enfin que nous sommes solidaires de ceux et celles qui portent, avec leurs organisations syndicales notamment, ces revendications, ainsi que de tous ceux et toutes celles qui tâchent d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble de la population, quels que soient les métiers et les statuts concernés. Je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Piel.
Monsieur le maire, mes chers collègues, cela fait presque un an maintenant que nous avons pris nos fonctions et nous avons voté un certain nombre de motions depuis le début du mandat, proposées par la majorité ou par notre groupe. Je m'interroge aujourd'hui sur le sens de cette démarche. Nous n'avons jamais eu aucun retour de la part de quiconque, représentant de l'État, parlementaire, etc., sur les motions votées jusqu'ici. Autrement dit, ces textes ne changent rien aux problèmes qu'ils soulèvent. J'ai finalement le sentiment qu'il s'agit d'un instrument de communication dépourvu de tout impact réel. Ce n'est pas ma façon d'envisager la politique, qui pour moi doit plus se concentrer sur l'action que sur la communication. C'est pourquoi, à titre personnel, et même si je peux partager les éléments qui figurent dans ces différents textes, je ne prendrai plus part au débat ni au vote concernant les motions, par principe. Je n'engage en rien mon groupe, je le redis, c'est une position de principe tout à fait personnelle qui n'a rien à voir avec le contenu du présent texte. Je vous remercie.
Merci. Alors, je ne vais pas vous dire qu'une motion, quel que soit l'endroit d'ailleurs où elle est présentée, amène forcément une réponse d'un représentant du gouvernement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Les motions, lorsqu'elles sont prises en conseil municipal, sont transmises bien sûr à la préfecture, ce qui est de règle, sont transmises aux députés et sénateurs aussi, pour qu'ils les fassent remonter, la préfecture étant en charge de les faire remonter au niveau des services de l'État. Après, nous avons des réponses où nous n'en avons pas. Je dois vous dire que effectivement, les motions, même qu'on passe au département, on n'a pas souvent de réponse. C'est très clair là-dessus. Mais je crois que c'est aussi, malgré tout, c'est quand même malgré tout, un moyen, pas que de communication, mais d'alerter nos grands élus et les services de l'État des difficultés qu'il peut y avoir à certains moments. À charge pour eux de les prendre en compte ou pas les prendre en compte. Le fait qu'il n'y ait pas de prise en compte ne veut pas dire qu'à un moment donné, l'élu ou le citoyen ne doit plus s'exprimer. C'est plutôt, moi ce qui me pose souci, c'est plutôt que l'on n'ait pas le retour de soit des grands élus, soit des services de l'État, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de l'État, par rapport aux motions que l'on fait monter. Donc moi je ne voudrais pas finalement qu'on se prive à la base d'un droit, d'un droit d'expression dès lors qu'au niveau national on ne va pas nous répondre. Ça voudrait dire qu'on finalement, comme on ne nous répond pas, on ne s'exprimerait plus. Je crois que ce n'est pas forcément la bonne formule, même si je suis d'accord avec vous, que les réponses, elles sont très rares. Et on les compte, en 6 ans de mandat, vous pouvez les compter sur les 2 mains, et encore, des fois, je suis un peu large dans les calculs. Voilà. Mais au moins, ça a la volonté de permettre l'expression des élus, ce qui est aussi la vie démocratique d'une collectivité quelle qu'elle soit, ou des organisations syndicales lorsqu'il y a des motions, ou lorsqu'il y a des pétitions ou autres, je crois que ça fait partie de la vie démocratique de notre pays. Bien, est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Oui, alors Clément et Christophe Vachon.
Je voulais juste préciser qu'à mon sens, s'exprimer, même si parfois nous ne sommes pas suffisamment entendus, mais j'appartiens à une famille politique qui en a malheureusement l'habitude, s'exprimer, c'est aussi agir. Et que si on ne s'exprime pas, eh bien, c'est que l'on est d'accord, finalement. Donc là, il s'agit... Je ne sais pas si cette motion suffira à obtenir le retrait de la loi de transformation de la fonction publique. Je ne suis pas complètement sûr. Je pense par contre qu'il s'agit juste d'un élément dans la construction d'un rapport de force plus large et que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sûrs de réussir qu'il ne faut pas essayer.
Si, monsieur Vacheux.
Oui, moi je suis un peu étonné quand même. Je suis un peu étonné et je trouve que ce soir, certaines réactions sont au fond finalement des offenses à certaines intelligences. Je crois qu'elles sont des offenses parce que votre groupe a martelé à son arrivée dans ce conseil municipal sa volonté d'entrer dans une démarche constructive. Si j'entends vos propos ce soir, en tout cas sur le fond, je pense qu'ils le sont, au fond. Mais sur la forme, je trouve que c'est faire offense à votre groupe que de vous comporter de la sorte. Sur la forme, je crois décidément que c'est une insulte à votre intelligence, selon je ne doute pas qu'elle soit individuelle ou collective. Ça m'étonne. Enfin, honnêtement, avec sincérité, je suis surpris. Alors, effectivement, je rejoins Pierre Allard. Il a cette réflexion que, presque malheureusement, je partage. Qui, ici, finalement, ce soir, fait plus de politique? Je ne crois pas que ce soit, au fond, une affaire d'ancienneté ou de nouveauté. Je n'ai pas pour prétention d'être ancien dans la politique. Mais je crois que être élu, que ce soit d'une majorité ou d'une minorité, nous engage sur le fond. Comme sur la forme. Parce que vous êtes, vous aussi, en état de représentation d'une partie de la population qui a eu confiance en vous, au moins en tout cas, à un point qui est de vous mettre aujourd'hui autour de cette table. À l'avenir, de grâce, soyons quelque peu vigilants sur le fond, comme sur la forme, à rester à la hauteur de l'engagement que vous avez pris, qui est celui d'être constructif. Je vous le redis, vous l'avez sans doute été sur le fond, sur la forme, ce soir, pas.
Monsieur Leveron.
Monsieur Vacheux, autant je peux partager que votre point de vue sur le fond, mais sur la forme, elle n'y est pas non plus. Je vais revenir sur le courrier. Non, sur la forme, lorsqu'on est attaqué sur la forme, on répond sur la forme. On est constructif, notre groupe est constructif. On a proposé, donc, je propose d'ailleurs, La solution, donc, de délibérer distinctivement du budget, du vote des subventions. Donc, ça, c'est une fausse proposition. Donc, c'est constructif. Là, vous l'entendez. D'accord? Sur la forme, lorsqu'on est attaqué sur la forme, moi, je me dois d'y répondre. C'est tout. Je veux dire, peut-être que ça nourrit le débat. Certes, c'est peut-être pas enrichissant pour le débat, je comprends ce que vous dites, c'est peut-être pas remettre de la hauteur au débat, mais lorsqu'on est attaqué de la sorte, moi je ne peux pas m'empêcher d'y répondre.
Je crains de ne m'être pas suffisamment exprimé avec clarté, je ne vous reproche en rien, le fait d'y avoir répondu. Je dis juste que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différents canaux de communication, d'échange et de discussion possibles, et qu'il est somme toute quelque peu dommageable, voire là pour le coup quelque peu bassement politique, de trouver là uniquement ce soir le canal qui n'est pas unique, de vous en exprimer. Je veux dire, les bureaux sont ouverts, les gens sont à disposition, l'entretien est possible, l'échange est possible, la discussion est possible. Et de faire d'un moment comme ce soir l'unique canal de s'en exprimer, ça m'étonne. Voilà, je vous le dis, ça m'étonne. Parce que je pense qu'on est... je vais me permettre de parler que pour moi, mais je ne pense pas que mes camarades iront à l'encontre de cela. Enfin, je crois suffisamment ouvert pour effectivement, lorsque quelque chose peut, et je le comprends, c'est pas le souci, hérissé, gêné, gratté, enfin vous abaisserez le mot boutré derrière. Je crois qu'on fait preuve d'un discernement, d'une disponibilité, d'une réflexion qui permettent un débat autre que celui formalisé tel qu'il est là ce soir. Donc je vous le dis, sans remettre en question, c'est parce que je n'ai pas d'animosité aucune envers ceci, je trouve que ces réactions sont dommageables dans une volonté qui est la mienne, hein, de demeurer constructif et de continuer dans le temps, parce qu'il nous reste du temps, de nous entendre constructivement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, je ne remets pas en question, d'accord. Là, était-il nécessaire ce soir? Vous êtes-vous illustré? Oui, oui. À mon sens, peut-être pas la meilleure des façons. C'est un avis.
Alors, je vais juste, puisqu'on revient sur ces propos, avant que je revienne à la motion, je voudrais juste rajouter un point que je n'ai pas rajouté tout à l'heure, c'est vous rappeler l'unité budgétaire. C'est-à-dire que, certes, non mais il ne faut pas l'oublier, monsieur Louverne, parce qu'elle est importante et...
Je connais tous les principes mais du ça budget, l'air, non, ça, je, ça sais pas, je sais bien.
Ça n'a pas l'air, monsieur Louverne, parce que vous ne pouvez pas voter l'ouverture d'une ligne budgétaire en votant contre le budget.
Mais c'est bien pour ça, monsieur le maire, je vous le dis. Je vous le dis, on en a discuté.
La délibération qui met le vote des des subventions des associations, elle est faite pour que les membres des associations ne participent pas au vote. Oui. Par contre, l'ouverture de la ligne budgétaire, elle était prévue au budget. Et elle se vote avec au moment du budget.
Justement.
C'est une règle budgétaire comptable qui n'est pas due à l'ancienneté de Pierre.
Rassurez-vous, je connais tous les principes du budget, que ce soit l'annualité, l'unité qu'on vous dites. Je sais très bien. Donc, mais pour être constructif, donc, si cette délibération-là dont on parle, elle aurait été proposée, le problème aurait été réglé.
Non.
Si, il aurait été réglé. Mais si.
Mais non.
Il aurait été réglé. Clairement, je ne vous parle pas sur le principe. Il aurait réglé clairement les choses.
C'est-à-dire que vous auriez voté le principe, mais vous n'auriez pas voté l'inscription de la ligne budgétaire.
Mais l'inscription de la ligne budgétaire, vous savez très bien que nous sommes six à avoir voté contre le budget. Donc l'inscription budgétaire, elle s'est faite avec vous, 27. Donc, d'accord, il n'y a pas de problème sur l'inscription budgétaire. Elle est faite, l'inscription budgétaire. Moi, je vous dis simplement, pour la clarté du débat, c'est que s'il y avait eu cette distinction de délibération, ce débat n'aurait pas eu lieu.
Moi, je vous réponds simplement et sans utiliser de propos outranciers, parce que, je viens de vérifier le texte. Donc, faites très attention, j'ai vérifié le texte. Je n'irai pas plus loin pour ce soir, mais j'ai vérifié le texte. Je vous précise tout de suite que si vous me redites une autre fois qu'il y a eu des propos mensongers, j'appliquerai d'autres méthodes. Je le dis très calmement parce que qui sont de nature à défendre les élus du conseil municipal, parce qu'on n'a pas utilisé de propos mensongers. Les autres méthodes, c'est le respect de la loi, c'est très clair pour moi. On respectera dans ce conseil la loi jusqu'au bout et l'utilisation de certains termes ne sont pas appropriés. Il n'y a pas eu de propos mensongers quand dans un courrier, on dit qu'un groupe n'a pas voté le budget et donc n'a pas voté les crédits pour les associations. Si vous arrivez à me démontrer que ça, c'est mensonger, par contre, vous avez utilisé le terme. Donc j'aimerais bien que ce terme ne soit plus utilisé, d'une part. D'autre part, je répète qu'il y a l'unité budgétaire, vous la connaissez certainement aussi bien que moi, et que... Pour que des crédits soient payés, il faut qu'il y ait l'ouverture de la ligne de crédit. L'ouverture de la ligne de crédit, elle ne se fait pas avec le vote de la délibération, elle se fait avec le vote du budget. Et ça, vous pouvez me l'expliquer comme vous voulez.
Vous prêchez un convaincu, ça je le sais.
Après, M. Dauvergne, aller voter des subventions sans voter l'ouverture de la ligne de crédit, ça oui, c'est faire de la politique et de la communication. Je vous dis simplement ça, c'est tout.
Une dernière fois.
On peut ne pas être d'accord là-dessus.
Une dernière fois, je vous rappelle que nous sommes 6 élus, il y a 27 élus du groupe majoritaire. Donc les crédits ont été votés, il n'y a pas de souci. Donc dans l'esprit de construction dont M. Vacheux parle, je crois qu'au départ, s'il n'y avait pas eu ce courrier et ces propos tenus, il n'y aurait pas ce débat là ce soir. Je veux dire, c'est dénigrer un petit peu notre position. Vous savez très bien que nous sommes tous engagés dans le milieu associatif. Pourquoi utiliser ce moyen de dénigrer l'énergie citoyenne? C'est pas correct. Je veux dire, je reviens sur les propos de M. Vacheux. Si vous voulez un débat constructif, soyez-le dès le départ. Je veux dire, moi, si vous m'attaquez sur la forme, je réponds sur la forme également.
Moi, je suis constructif, mais dès lors, quelqu'un qui ne vote pas le budget, ça veut dire qu'il ne vote pas les crédits pour réaliser des... Je veux dire, c'est un peu trop facile, mais c'est un débat qu'il y a partout de toute façon. C'est un peu trop facile d'aller voter. Vous votez les projets, vous ne votez pas les budgets qui permettent de réaliser les projets. Or, on ne peut pas faire un vote du budget on ne peut pas disséquer le vote du budget. Je suis désolé, moi, ce n'est pas moi qui ai fait la loi jusqu'à présent. Donc voilà. Mais que je sache, c'est un tout. Après, il n'empêche que, comme disait M. Vacheux, on a toujours été ouvert à la discussion. On a, contrairement d'ailleurs à ce que vous avez pu me dire à un conseil, on prend en compte les demandes que vous faites, elles sont soumises aux commissions, il y a des évolutions, il y a des propositions qui sont faites, il va y en avoir encore qui vont être faites au prochain conseil municipal, donc on ne peut pas dire que même si vous êtes 6, on n'écoute pas ce que vous dites. L'idée, c'est pas d'aller contre les uns ou contre les autres, c'est d'être constructif à un moment donné pour les habitants. Mais si le fait de rendre compte d'un vote pose problème, lorsqu'on rend compte d'un vote, c'est le conseil, c'est les élus, effectivement, je vous le précise, la municipalité rend compte d'un vote. Voilà, et la presse aurait pu très bien rendre le même résultat du vote à l'issue du conseil municipal du budget. C'est pas que de faire offense. Après, vous avez toute liberté de vous expliquer sur votre vote en disant que vous n'êtes pas d'accord avec certains et d'accord avec d'autres. Mais que le budget se vote dans son intégralité et pas en petits morceaux. Voilà, moi, on ne peut pas faire le texte de loi autrement. Hein. Monsieur Piel.
Oui, juste pour préciser, c'est exactement ce qu'on a fait. On a précisé qu'on n'était pas d'accord avec certains points. On n'a jamais dit qu'on était contre les subventions.
Certes, mais pour l'instant, le budget n'a pas été voté. Je suis désolé. Bon, je prends acte. Ben, vous avez voté un budget. Un seul, si je me rappelle bien.
La différence entre notre vote et le budget a été adopté. Le budget a été adopté, les crédits budgétaires ont été ouverts.
Non, mais attendez. Alors, vous ne pouvez pas nous critiquer à un moment donné et nous dire que les crédits budgétaires ont été adoptés parce que vous les avez votés. Ça c'est un peu facile. Alors, ça veut dire que, comme nous, on vote le budget, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est pas ça, quand même. Il faut être capable de prendre vos responsabilités, je suis désolé. On vote contre un budget, eh ben on assume ses responsabilités. Si vous n'êtes pas contre, comme dit M. Piel, vous n'êtes pas contre tout le budget, vous avez tout loisir de dire on a voté contre parce que le budget, c'est un bloc unique qui se vote, mais on est pour telle et telle chose. Mais moi, je n'ai pas entendu tout ça l'autre jour. J'ai entendu un certain nombre de choses, mais pas tout. Mais vous avez tout loisir de vous exprimer, que je sache. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire après quand même que, bien sûr, vous êtes sûr que le budget va être voté parce qu'il y a la majorité qui va voter le budget, bien sûr. Sinon, il n'y aurait plus de majorité. Bien, j'en reviens donc à la motion de... Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu. Monsieur Lequet.
Oui, juste, je reviens sur les propos de Monsieur Piel sur le fait qu'on n'ait pas de réponse. Il faudra arrêter les motions, il faudra arrêter de s'exprimer. Dans ce cas-là, on va demander aussi aux organisations syndicales d'arrêter de se rassembler. Donc je pense que c'est une façon déjà élégante de ne pas prendre part au vote sur cette transformation de la fonction publique territoriale, puisque vous êtes déjà abstenu sur la LDG. Bon, je veux dire, si à chaque fois on doit se taire parce qu'on n'a pas de réponse du gouvernement, on ne ferait plus rien. Donc je trouve ça, c'est une façon élégante de ne pas prendre part au vote sur cette transformation de la fonction publique territoriale. Mais c'est quand même dommage.
Donc je vous propose de passer au vote. Donc j'ai noté que M. Piel ne prenait pas part au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc adopté, alors je ne sais jamais si c'est à la majorité. Ah oui, ça compte comme une abstention, d'accord. Donc adopté à la majorité. Notre collègue Laure Murat concernant les remerciements.
Alors, la ludothèque La Roulotte remercie la municipalité pour l'attention qu'elle porte à la vie associative. France Victime 87, Marche à pied et le Secours catholique remercient la municipalité pour l'attribution d'une subvention.
Merci. Donc, vous avez dans votre dossier l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis notre dernier conseil municipal. Et moi, pour ma part, j'en ai terminé, mais il y a une demande de parole. Donc, Monsieur Granet, oui.
Oui, merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je souhaitais vous faire part de mon sentiment après avoir procédé à une lecture attentive du dernier numéro de Bonjour, du mois de mai, et notamment la tribune du groupe Énergie Citoyenne, que l'opposition utilise la tribune qui est mise à sa disposition dans le journal municipal, c'est tout à fait naturel. Là, d'ailleurs, il nous serait agréable d'y lire les projets et les propositions qu'elle nourrit. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il faudrait expliquer votre position par rapport au budget, discussion que nous venons d'avoir. Mais qui lisons-nous ? Des propos qui florbourent le populisme et qui sont choisis pour flatter les instincts les plus vils, qui constituent le terreau du dégagisme devenu la doxa depuis l'élection du président de la République. Des morceaux de phrases en caractère gras, pour bien souligner le dénigrement et la démagogie qui inspirent cet exercice, devenu malheureusement récurrent depuis le début du mandat. Vous écrivez que la Commission nationale des comptes de campagne a validé sans aucune réserve ceux de votre liste. J'en suis ravi pour vous, mais rassurez-vous, les nôtres aussi ont été validés sans aucune réserve. Sinon, nous ne serions pas là autour de cette table. Vous l'écrivez, nous n'avons rien à cacher, nous non plus. D'ailleurs, je crois que les débats qui viennent d'avoir lieu à l'instant le démontrent. Et puisque vous n'avez rien à cacher, moi j'ai envie de vous poser à nouveau une question que notre maire vous a posée à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous donner le coût prévisionnel de l'aménagement que vous avez proposé au sein Junio lors de votre campagne électorale, et notamment en ce qui concerne l'entrée de Saint-Julien, avenue Dorado-sur-Glane. On n'a toujours aucune réponse là-dessus. Vous précisez que vous êtes pour la transparence et que le montant des indemnités perçues par les élus municipaux sont diffusés par votre biais. Très bien, mais vous n'inventez rien. Les indemnités des élus municipaux, communautaires, départementaux, régionaux, députés, sénateurs sont publiques. Et n'importe quel citoyen peut savoir combien touche monsieur le maire en indemnité, combien touche un conseiller départemental, le président du conseil régional, etc., etc. Donc c'est bien de faire de l'info, mais elle est déjà faite. Pour qui veut la chercher, il la trouve. Et puis, vous continuez avec une volonté de rétablir la confiance dans nos responsables politiques. Je suis entièrement d'accord avec vous, là je ne peux que vous suivre. Et vous me dites, il y a du travail, trois petits points. Ben, il y a du travail, sous-entendu quoi ? Parce que là, il s'agit bien d'un bulletin municipal. Donc, on ne fait pas de la politique nationale. Donc là, on ne parle pas de la baisse de confiance des citoyens vis-à-vis de nos politiques nationaux. On est dans un bulletin municipal. Donc, qu'est-ce que je lis ? Moi, je lis qu'on remet en cause un petit peu l'honnêteté des élus en place depuis très longtemps, selon vos dires de tout à l'heure. Je vous précise, c'est mon deuxième mandat uniquement que je commence. Donc, je suis un jeune élu, moi aussi. Donc, il est très désagréable, un peu pénible et pour ne pas dire fatigant, de voir ainsi l'engagement de toute une équipe municipale foulée aux pieds et méprisée par une opposition qui n'a finalement rien d'autre à proposer. Le courage en politique, comme dans tous les actes de la vie, c'est, comme le disait le grand Jaurès dans son fameux discours à la jeunesse, de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Il me semble qu'à la lecture de cet article et à la lumière jaurésienne, cette petite tribune manque singulièrement de courage. Voilà, je souhaitais vous faire part de cela car ce n'était pas agréable pour moi de lire ça. Merci, monsieur le maire.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur d'Auvergne.
Monsieur Granet, je vais être bref. C'est un engagement qu'on avait pris devant nos citoyens. Donc, on l'a tenu. C'est juste ça. C'était une tribune pour répondre donc à nos engagements. Voilà, il ne fallait pas le prendre autrement. Donc, c'est tout. Voilà, je reste là. Il n'y avait pas une politique de dénigrement. Il n'y avait rien du tout à cacher derrière. On avait un engagement moral envers nos citoyens. On l'a tenu, tout simplement. Voilà.
Je rajouterai juste une petite précision, mais qui n'a rien à voir avec votre engagement. C'est que les indemnités des élus sont votées par le conseil municipal. Donc, elles ont été votées ici, en toute clarté, par le conseil municipal, comme c'est à la communauté de communes, comme c'est dans toutes les instances. Et donc, elles sont à la disposition de tous les administrés en début de mandat. Et s'il y avait une volonté d'augmenter, puisque ce sont des pourcentages par rapport à un indice, il y aurait une obligation de repasser devant les conseils municipaux. Donc voilà, donc il y a là aussi toute la clarté nécessaire qui est faite sur les indemnités de mandat des élus. Et je vais même aller plus loin, pour les présidents de communautés de communes, il y a même une déclaration à la haute autorité de contrôle des finances publiques, des finances électorales, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est faite avec la totalité la déclaration de la totalité des biens des présidents de communautés de communes, du patrimoine, ça va jusqu'à ce que vous avez sur votre compte en banque, donc c'est extrêmement précis et ça répond en toute transparence il doit y avoir en fin de mandat un résultat qui est donné aussi pour bien vérifier qu'il n'y ait pas eu d'enrichissement personnel. Donc il y a, je crois, dans ce pays, eu beaucoup d'avancées à ce niveau-là et qu'il ne faudrait pas oublier aussi de le rappeler à un moment donné, parce que c'est tout à l'honneur de ceux qui l'ont mis en place, et peut-être au déshonneur de ceux qui n'ont pas voulu le suivre à un moment donné, et ceux qui ne l'ont pas suivi, eh bien, s'ils ont été condamnés, je crois que c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, il y a une grande transparence et un grand contrôle qui est fait au niveau des élus et au niveau des indemnités, c'est encore pire puisque là, c'est un vote du conseil municipal et donc tous ceux qui sont autour de la table, vous tous, vous avez voté à un moment donné les indemnités du maire, des adjoints. Voilà. Monsieur Gandou.
Juste pour terminer sur le sujet, il faut faire attention à ce qu'on écrit, à ne pas jeter la suspicion sur des choses lorsqu'on met par exemple, on déclare sur notre site les indemnités des élus. Comme le disait le maire et certains de mes camarades aussi, ces indemnités, elles sont publiques, elles sont votées. Donc attention à ce que vous écrivez, ne pas jeter systématiquement la suspicion sur les élus de la majorité.
Monsieur Gandois, vous avez raison, mais notre but, c'est pas de jeter la suspicion. On dit, bon, bien sûr, elles sont publiques, mais vous savez très bien que pour nous, c'est plus facile. On est un petit peu de la partie, on comprend un peu tout ça. Mais je veux dire, le commun des mortels, il ne connaît pas tout ça. Donc, c'était une information qu'on donnait simplement, je veux dire.
Dont acte. D'autres interventions ? Donc, moi, j'ai épuisé l'ordre du jour. Je considère que la réunion est close. Merci. Bonne soirée.